of stillness strikes my neck. I see a sign, I see a sign. The heat wave reaches me all over again, over again. Joining of the seas to create a peaceful home.
Lumpen Station en direct depuis le KBCB, salle, le studio low. Et voilà, c'est l'automne après avoir fait plein de cycles en printemps et cet été. On reprend avec Claire Megumi qui fait partie de ce programme Building Communities, ou Communities Building, qui est en focus sur la jeune relève suisse et qui donc implique que des artistes invitent d'autres amis ou artistes pour faire des choses en collectif. Et donc voilà, on va entendre en direct cette orchestration et on se réjouit de voyager avec vous sur les sonorités et Lumpen Station. Alors je vois que tu me fais un signal, c'est bon? Je allume ta piste, c'est bon.
As I was moving ahead, I saw brief glimpses of beauty. OMG. We don't have time to fight. All is all is all. Again, all I did is fall. Mad riding tonight. The mood to move those fists forever until the drug is gone later. I mean, yeah, we need some food. Why? Writing to music. Words give me melody. Notes give us the lyrics only. When you feel chic. I hear a wave in my ear, a lot of shiny, but don't worry, it's all clear. What does Mama know? The church is like meat to me. Other people can enjoy it better, really. So I'd rather let them go. Stay in horizontal position. Where does the energy lie? come on, just wait. Midnight's ploof in water. We say so, but it's 2 or 4. Naked and hell fucking hardcore until the next morning's big blur. All is burning around you, us, and we are here, arting. Who'd like to wear this silver ring? Magical apparatus. I'm in the mood to move those fists forever until the drug is gone later. I mean, yeah, we need some food. As I was moving, I saw brief glimpses of beauty. OMG. 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 OMG.
So, anyone who knows me knows that I'm always late. I have even lost friends because of that. Sometimes, I wonder if my Swiss father is really my father, because it feels impossible that I have Swiss blood running through my veins. To avoid losing more relationships, I started keeping track of why I'm late a few months ago. This way, I can better understand it, manage my time, and explain the reasons more clearly. Now, I've picked out a few reasons from the list, and I'm going to share them with you. Reason number one, why I'm late. Today, I wasn't just late. I didn't show up at all. They were waiting at my door, but I didn't hear my alarm. I suddenly woke up in a panic, 1 hour late, with 15 missed calls. I'm not even 30, 7 hours of sleep should be enough, no? I have been feeling so depressed for weeks. I was looking forward to this family meeting all week. Last night I even downloaded an app for 50 euro that forces me to solve math problems to turn off the alarm.
Il était une fois, dans une petite ville d'un petit pays, au bord d'un petit lac, un joyeux petit moineau, dans un tout petit nid, sous les tuiles d'un toit. Lui et sa fratrie adoraient voler et s'amusaient de voltiger d'aventures dans la ville. Mais ce qu'il aimait par-dessus tout, c'était admirer les couchers de soleil depuis le plus haut perchoir de la ville. Il adorait les teintes multicolores et profondes qui peignaient l'horizon. Il s'attardait souvent à regarder le spectacle céleste jusqu'à la nuit tombée. Un soir, alors qu'il était le dernier sur le perchoir et que la lune était déjà haute dans le ciel, un son strident retentit au loin. L'explosion d'un feu d'artifice. Son petit cœur de moineau rata un battement. Il se mit à chuter du perchoir. À quelques mètres du sol, il se rattrapa in extremis et, terrifié, se dirigea en catastrophe vers son petit nid. Il accéléra. Le nid était en vue. Les explosions retentissaient encore derrière lui. Il accéléra jusqu'à ce que... Padaboum ! Il manqua son nid de rien et se rétama sur les tuiles. Il était blessé. Il avait peur et mal. Mais surtout, il ne pouvait plus bouger ses ailes. Après le boucan des feux d'artifice, ses frères et sœurs le retrouvèrent sur les tuiles et s'occupèrent de lui. Il fut obligé de sauter jusqu'au nid qu'il ne pouvait à présent plus quitter. Il était bloqué là, sous les tuiles. Nourri par sa famille, il attendait, à ne rien faire que regarder les passants. Il savait qu'il ne pourrait sûrement plus jamais prendre son envol. Un jour, alors qu'il s'ennuyait et qu'il regardait ses frères et sœurs planer en s'amusant, il découvrit un détail auquel il n'avait jamais prêté attention. Un petit trou dans le bois derrière lui. Curieux, il s'en approcha en sautillant et parvint à se faufiler dans l'entrée. Il arriva sur une poutre en bois, dans une pièce sombre et lugubre, à peine éclairée par un rayon de soleil qui traversait une fenêtre délavée. Sans le savoir, notre petit moineau était arrivé dans le grenier. Ses petits yeux s'habituaient petit à petit à l'obscurité. Au-dessus de la pièce, tout un réseau de poutres apparentes était relié les unes aux autres, sur lequel notre petit moineau se tenait, couvert de toiles d'araignée et de poussière. Sur les murs, des étagères pleines à craquer s'empilaient. Le sol en vieux plancher était couvert d'objets variés. Une odeur de bois pourri empestait l'air ambiant. Plus loin sur la poutre, il aperçut une araignée dans sa toile. Il s'en approcha avec des gros yeux et une forme d'excitation le prit. D'un coup de bec, il l'avala. Avec encore la toile d'araignée en berlificotée autour de son plumage, le petit oiseau rapporta la nouvelle à ses frères et sœurs en sautillant. Ils n'eurent pas la réaction escomptée et restèrent indifférents à sa découverte. Il retourna donc au grenier et commença à passer la plupart de son temps à chasser les insectes sur son réseau de poutres. Il commença à changer avec son nouveau mode de vie. La chasse aux insectes devenait une obsession. Il pensait toujours au goût du prochain qui finirait dans son gosier. Les mois passèrent, les jours se ressemblaient et notre moineau, outre regarder les passants, passait son temps à chasser les malheureux insectes des hauts du grenier. Ses proies se raréfièrent sur les hauteurs du grenier. Un jour, alors qu'il pourchassait un tardigrade des yeux qui se trouvait sur un mur, il s'approcha pour l'attraper. Il se pencha, car le tardigrade était juste un peu trop loin pour se faire avoir. Se pencha, un peu plus près, quand tout à coup, le petit oiseau perdit l'équilibre, glissa et tomba. Il chutait, à quelques centimètres du sol, ses ailes s'ouvrirent, ralentissant sa chute, dans un réflexe. Ouch ! Il se retrouva sur le plancher poussiéreux du grenier. il ne pouvait plus remonter jusqu'à son nid et avait terriblement peur. Ses frères et sœurs se rendirent bientôt compte de sa disparition. Ils le trouvèrent dans la poussière, debout sur ses petites pattes. Pas moyen de le ramener en haut vers le nid. Il était condamné à rester là, seul. Le petit moineau était donc tout seul dans son grenier sombre. Au moins, l'atmosphère lui était familière et il pouvait reprendre son activité préférée, chasser les insectes. Mais il avait déjà tellement chassé que la sensation de la première araignée était loin. Maintenant, ce n'était plus que sa routine, sa vie. Il avait presque oublié la sensation de voler. Un soir, alors qu'il sautillait derrière un cafard bien gras, il entendit un bruit. Il leva la tête et, à quelques pieds de lui, un gros rat. Ils se dévisagèrent, le rat s'approcha et tenta de le mordre. Le petit moineau répondit par un coup de bec. Le rat recula d'un bond. « Si je ne peux pas te manger, devenons amis », proposa le rat. Et ils devinrent amis. Le rat lui montra tous les recoins et les secrets du grenier. Ils chassaient les insectes ensemble, ce qui redonnait des sensations d'excitation au petit moineau. Ils passaient du bon temps. Mais le rat était libre de circuler dans tout l'immeuble, tandis que le moineau était cantonné au sol du grenier, puisqu'il ne pouvait que sautiller. Il était donc très souvent seul. Le petit moineau ne voyait presque plus ses frères et sœurs. Il avait un peu honte de ce qu'il était devenu. Il ne savait plus voler, ne souriait plus, et passait son temps à traîner dans l'ombre ou à chasser les insectes, pour éviter de penser à quand il était encore libre. Il ne se sentait pas très bien, mais au moins son activité lui occupait l'esprit. La nuit, il rêvait souvent de son accident. Parfois, il regardait la lumière au travers de la seule fenêtre délavée, mais ne ressentait plus rien d'autre qu'une vague détresse nostalgique. Les jours se ressemblaient. Le petit moineau était devenu méconnaissable. Il avait accumulé tellement de crasse sous ses plumes. L'air ne circulait pas ici. Et franchement, la chasse aux insectes ne lui procurait plus les sensations du début. Il était tout maigre de sa mauvaise alimentation, refusant la nourriture amenée par ses frères et sœurs. Plus rien ne venait déranger la stabilité de sa vie apathique. Sauf quand, parfois, un humain venait déposer ou prendre un objet dans le grenier. La porte ouverte laissait voir une lumière et un appel d'air venait rafraîchir l'atmosphère vieille et humide de la pièce. Ça lui changeait du goût des insectes qui n'avaient plus de saveur. Un jour, l'humain vint débarrasser et prendre plus d'objets que d'habitude. La porte du grenier resta ouverte. Un courant d'air semblait l'appeler au loin. Le petit oiseau hésita. Il était si confortable dans son monde, dont il connaissait chaque recoin. Et puis, il avait franchement peur de l'extérieur maintenant. Pourtant, quelque chose dans son instinct s'activa. Et il descendit la marche insurmontable qui le séparait du pas de la porte. Il s'engouffra et découvrit une cage d'escalier. Chaque marche le séparait davantage de son abri. Le petit oiseau descendit une à une les marches avec des petits bonds décidés. Chaque marche le remplissait de bouffées d'air vital qui faisaient gonfler ses plumes. Fatigué, il arriva finalement devant la porte du rez-de-chaussée qui était grande ouverte. Une lumière brillait de l'autre côté de la porte. Son cœur battait la chamade. il s'engouffra dans la lumière. Il sortit de l'immeuble, ébloui par le soleil. Devant lui, la ville qu'il avait quittée après son accident. Il redécouvrit le monde extérieur. Les nuages, les plantes, l'activité de la ville et surtout l'air frais. Le petit oiseau aperçut une flaque, si abreuvant et si baignant. Quelle joie! La crasse accumulée sous ses ailes commença à partir. Il se sentait si bien, chauffé par le soleil. À ses côtés, un chien tenu mollement en laisse s'approcha brusquement et se mit à aboyer. Le petit oiseau bondit et perdit l'équilibre. Il tomba du trottoir et se retrouva sur la route. Une voiture arrivait à toute berzingue. Le moineau la vit arriver. Il ne pouvait s'empêcher de se dire qu'au moins, il mourrait au soleil et que c'était quand même mieux comme ça. Mais là, un miracle se produisit. Les ailes du moineau se déployèrent. Il esquiva la voiture d'un battement d'ailes quasiment involontaire, surpassant ses peurs. Il était très surpris. Sa blessure était donc guérie. Mais depuis quand? Il n'avait même plus essayé de bouger les ailes depuis l'accident, se croyant condamné. Mais il lui avait sauvé la vie. Encore sous le choc, le moineau repassa par la porte ouverte, remontant les escaliers en sautillant et en battant des ailes comme il le pouvait. Il arriva au grenier et s'envola du sol avec une vigueur fraîchement retrouvée pour se poser sur les poutres. Le moineau retourna dans son nid et retrouva ses frères et sœurs. Ils peinèrent à le reconnaître tellement ils s'étaient habitués à le voir dans un piteux état. Mais il était là, prêt à repartir à l'aventure avec eux. Ils s'élancèrent dans les airs avec joie. Toutes les sensations étaient revenues. Après quelques pirouettes dans les airs, il retourna au nid et demanda à ses frères et sœurs de le suivre. Il avait un vieil ami à retrouver. Il trouva le rat et lui dit
« Piou, 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 piou.
Tu m'as montré ton chez-toi dans mes moments les plus sombres. Tu m'as tenu compagnie. Et maintenant, c'est à moi de te faire découvrir un monde que tu ne connais pas. » Alors, dans un effort conjoint, les moineaux agrippèrent la peau du rat et l'emportèrent avec eux dans les airs. Depuis ce jour, le soir, à Bienne, quand le soleil se couche, si on plisse les yeux en regardant le ciel, on peut voir la silhouette d'un rat porté par ses amis les petits moineaux, volant dans le crépuscule. Dans la nuit, on peut se perdre, se blesser et s'oublier. Mais un jour, un rayon de lumière, un courant d'air, saura nous guider pour retrouver le ciel et la liberté.
Tant de citoyens amoureux de la nature et qui n'ont pas les moyens de voyager. Ils ne connaissent seulement que par la littérature la rive où fleurit l'oranger. Ils rêvent que de s'en aller dans les Landes en Bretagne ou dans les auberges à coups de fusil. Sans douter qu'il existe un vrai pays de cocagne à 10 cm de Paris. Sur la zone, mieux que sur un trône, on est plus heureux que des rois. On applique la vraie république, vivant sans contrainte et sans loi. Y a pas de riche et tout le monde a sa niche, et son petit jardin tout pareil. Ses trois pots de géranium et sa part de soleil sur la zone. On n'a pas des palaces en marbre de Carrare, avec des dorures au balcon. On habite une cabane faite en boîte à cigares avec une toiture en carton. Y'a pas besoin de crâner dans son automobile pour qu'une poule vous tombe dans les bras. Les amours sont moins chers et beaucoup plus faciles qu'avec les stars de cinéma. Sur la zone, y'a pas de sable jaune, ni de parasol, ni de mer d'azur. On s'invite à bouffer de la frite autour d'un grand kil de vin pur. Sous la brise, on peut de la saguise, s'endormir à poil au soleil, tout comme les nudistes à Nice ou beau soleil. Sur la zone, y'a des clefs qui s'engueulent à travers les clôtures, des oies, des pigeons, des canards, des poules qui tranquillement s'en vont à l'aventure, mais pas comme celles des grands boulevards. Les savants qui voudraient étudier nos coutumes seraient bien obligés de constater que la grenouille du trottoir et le poisson du bitume n'arrivent pas à s'acclimater. Sur la zone, bien sûr que la faune n'est pas celle de tous les pays. On y chasse en guise de bécasse du rat, de la puce et de la souris. On pratique les jeux athlétiques et les sports qui piquent à la fois. On a des balançoires, un tir et des chevaux de bois. Sur la zone, il y a des tordes ambitieux qui s'acharnent à la peine pour ramasser 300 000 francs. De quoi s'acheter plus tard un castel en Touraine, faut vraiment pas être au courant. Y'a qu'à s'amener comme ça, simplement un dimanche, avec des planches et des outils, pour se construire soi-même sa villa des pervenches, ou son petit chalet, ça me suffit. Sur la zone, c'est le péril jaune, les moutards poussent comme des chinois. On oublie l'hydrothérapie quand on prend son...
Reason number two why I'm late. Couldn't get out of bed. Spend the morning watching videos on Instagram. Already more than 5,000 people dead. Reason number three why I'm late. The tram is not running anymore. There was supposed to be a replacement bus 30 minutes ago. The street is packed with people waiting, occasionally split by a fast yellow taxi that disappears as quickly as it shows up. Thank you. Reason number four why I'm late. Rosika, the cleaning lady, convinced me to have lunch with her. She already had her disnotereuche with sour cabbage in two portions and was warming one in the microwave. Disnotereuche is a traditional Eastern European pork dish. First, I said no, that I need to catch the train. But she kept insisting, saying her way of getting around the city was much faster than mine and she would drive me to the tram with her car. So I said yes. In that moment, her loneliness felt more important, much more important than anything else. Update 1 hour later. I was an hour late. Update 2 months later. Rosika is from that part of Ukraine that was Hungary more than 100 years ago. She is neither fully Hungarian nor Ukrainian. Every day she watches her house in her village through a surveillance camera and shows me live footage. There, in this village, there in her house, in front of her house, a bus passes by. It's raining.
Qu'est-ce qui s'imprime plus fort ? L'image de la liberté dans la rétine d'un enfant, ou les coups de matraque sur les corps qui exultent ? Qu'est-ce qui rentre plus profond dans nos épaisseurs de chair, d'émotion ? La force qui irradie des regards de celui qui sconde, chante, danse, ou la fumée lacrymogène ? La force qui irradie des regards de celui qui scande. La force qui irradie des regards de celui qui scande, chante, danse, ou la fumée lacrymogène. Nous sommes une meute la nuit. Nous sommes une meute de chaque sauvage, chaque inx du feu à la place de la bile, chaque inx en brasier muet porté, chaque souffle, chaque mouvement, chaque mètre depuis le jour où éjectex du ventre gluant de nos mères. Nous sommes une meute et ce soir nous feulons la rue. Autour de moi leur corps, il faut se méfier de leur membre fin. Elles cachent des griffes, elles mordent, elles crachent et en même temps elles caressent. Tu crois qu'elles chantent, tu crois qu'elles rient, mais c'est une colère qui sort de nos bouches comme des plantes sauvages. Nos gorges sont des champs de terre glaise, prêts à faire fleurir des cris agonisants depuis des siècles. Qu'est-ce qui s'imprime plus fort ? L'image de la liberté dans la rétine d'un enfant ou les coups de matraque sur les corps qui exultent. Qu'est-ce qui rentre plus profond dans nos épaisseurs de chair et d'émotion ? La force qui irradie des regards de celles qui scandent, chantent, dansent ou la fumée lacrymogène ? Tu connais la réponse. Qu'est-ce qui tatoue indélébile ? Des lames tigresses chauffées au fer rouge ou des mensonges d'encre fabriqués par des prêtres sans joie ? J'emmènerai dans ma tombe le grain de peau de celle venue m'étreindre quand la grenade en moi explose. J'emmènerai dans ma tombe le grain de peau de celle... J'emmènerai dans ma tombe le grain de peau de celle venue m'étreindre quand la grenade en moi explose. La douceur de sa joue. Le mouvement de sa main sur ma nuque et qui renferme ma douleur comme un coquillage. La douceur de sa joue, le J'emmènerai dans ma tombe le grain de peau de celle venue m'étreindre quand la grenade en moi explose. La douceur de sa joue, le mouvement de sa main sur ma nuque et qui referme ma douleur comme un coquillage. Ma Vénus de Botticelli est une botte surgie de nulle part, dans une marche de nuit pour m'arracher à la menace d'une garde à vue. Tambourine depuis le sang dans mes tempes. Tambourine depuis le sang dans mes tempes. Tambourine depuis le sang dans mes tempes. J'aimerais revoir son visage. Tambourine depuis le sang dans mes tempes. J'aimerais revoir son visage, mais il reste encore au bout de mes doigts. Un peu de fioul ramassé dans les tripes de mes sœurs. Il colle. Je peux, si je veux, m'en faire des peintures guerrières. Deux sur chaque pommette. Barrière contre la folie et le talisman anti-milice. Qu'est-ce qui reste alors ? Qu'est-ce qui reste ? Leur mépris ou nos amours mêlés ? Nos charmes jetés les unes aux autres ? Cette façon que nous avons de nous trouver ? Leur mépris ou nos amours mêlés, nos charmes jetés les uns aux autres, cette façon que nous avons de nous trouver belles et de tomber amoureux que c'est des constellations tracées par nos poignets quand ils se joignent. Qu'est-ce qui reste alors ? Leur mépris ou nos amours mêlés, nos charmes jetés les uns aux autres, cette façon que nous avons de nous trouver belles, belles ou beaux et de tomber amoureux que c'est des constellations tracées par nos poignets quand ils se joignent au ciel. Quand ils se joignent au ciel pour dessiner des routes cosmiques, des chemins pour chariots telluriques, guerrières nocturnes et flèches dorées. Qu'est-ce qui reste alors ? Tu connais la réponse. Lacère les vêtements étriqués, lacère les regards, lacère les insultes, les coups, lacère le viol, lacère la police, lacère les laisse passer autour de la serre les laisse passer autour des coups frêles par des hommes inconscients, car un jour les chaks se réveillent et entament une transe vaudou. La serre les laisse passer autour des coups frêles. Nous existons depuis toujours.
Qu'est-ce que l'écriture ? La gardienne de l'histoire. Qu'est-ce que le mot ? Le traître de l'âme. Qu'est-ce qui génère le mot ? La langue. Qu'est-ce que la langue ? Le fouet de l'air. Qu'est-ce que l'air ? Le gardien de la vie. Qu'est-ce que la vie ? Un plaisir pour les bienheureux, une affliction pour les malheureux, l'expectative de la mort. Qu'est-ce que la mort ? Un événement inévitable, un voyage imprévisible, les larmes des vivants, l'entrée en vigueur d'un testament, le ravisseur des hommes. Qu'est-ce que l'homme ? Un esclave de la mort, un voyageur de passage, un étranger de ce lieu. À quoi ressemble l'homme ? À une pomme. Quelle est sa situation ? Celle d'une lanterne dans le vent. Où se trouve-t-il ? Entre six directions. Combien de compagnons a-t-il ? Quatre. Qui sont-ils ? Chaud, froid, sec, humide. De combien de façons change-t-il ? Six. Lesquelles ? La faim et la satiété, le repos et le travail, la veille et le sommeil. Qu'est-ce que le sommeil ? L'image de la mort. Qu'est-ce que la liberté pour l'homme ? L'innocence. Qu'est-ce que la tête ? Le sommet du corps. Qu'est-ce que le corps ? L'habit de la tête. Qu'est-ce que le cerveau ? Le serviteur de la mémoire. Que sont les yeux ? Les guides du corps, des vases de lumière, les divulgateurs de l'âme. Que sont les narines ? Les convoyeurs des odeurs. Que sont les oreilles ? Les collecteuses des sons. Qu'est-ce que le visage ? L'image de l'âme. Qu'est-ce que la bouche ? La nourrice du corps. Que sont les dents ? Le moulin de ce qui a été mordu. Que sont les lèvres ? Les battants de la bouche. Qu'est-ce que la gorge ? La dévoratrice de nourriture. Que sont les mains ? Les ouvriers du corps. Que sont les doigts ? Les plectres des cornes. Qu'est-ce qu'un poumon ? Le serviteur du souffle. Qu'est-ce que le cœur ? Le réceptacle de la vie. Qu'est-ce que le foie ? Le gardien de la chaleur. Qu'est-ce que la vésicule biliaire ? Le déclencheur de la rage. Qu'est-ce que la rate ? Un réservoir de rire et de bonheur. Qu'est-ce que l'estomac ? Le cuisinier des aliments. Qu'est-ce que le ventre ? Le gardien des fragments. Que sont les os ? La force du corps. Que sont les hanches ? Que sont les jambes ? Les colonnes du corps. Que sont les pieds ? Qu'est-ce que le sang ? Les humeurs des veines, l'aliment de la vie. Que sont les veines ? Les fontaines de la chair. Que sont les cieux ? Une sphère en rotation, une vaste hauteur. Qu'est-ce que la lumière ? Le visage de toute chose. Qu'est-ce que le jour ? Un encouragement au travail. Qu'est-ce que le soleil ? La splendeur du monde, une beauté dans le ciel, une grâce de la nature, l'ornement du jour, le diviseur des heures. Qu'est-ce que la lune ? L'œil de la nuit, la porteuse de la rosée, la prédictrice des tempêtes. Que sont les étoiles ? Un tableau dans les hauteurs, les guides des marins, la parure de la nuit. Qu'est-ce que la pluie ? L'engrais de la terre, l'engendreur des fruits. Qu'est-ce que la brume ? La nuit dans le jour, du travail pour la vie. Qu'est-ce que le vent ? Un bouleversement de l'air, un déplacement des eaux, un dessèchement de la terre. Qu'est-ce que la terre ? La mère des choses qui croissent, la nourrice des êtres vivants, la réserve de la vie, la dévoratrice de toutes choses. Qu'est-ce que la mer ? Le chemin de l'audace, la limite de la terre, le séparateur des territoires, le repos des fleuves, la source des averses, un refuge dans les dangers, une grâce parmi les délices. Que sont les rivières ? Un mouvement infaillible, le rafraîchissement du soleil, l'arrosage de la terre. Qu'est-ce que l'eau ? Le support de la vie, le nettoyeur de la saleté. Qu'est-ce que le feu ? Une chaleur excessive, le réchauffement de ce qui croît, la maturation des fruits. Qu'est-ce que le froid ? Le tremblement des membres. Qu'est-ce que le gel ? La persécution des plantes, le destructeur des feuilles, l'entrave de la terre, un pont sur l'eau. Qu'est-ce que la neige ? De l'eau sèche. Qu'est-ce que l'hiver ? L'exil de l'été. Qu'est-ce que le printemps ? Le peintre de la terre. Qu'est-ce que l'été ? L'habillage de la terre, le mûrissement des fruits. Qu'est-ce que l'automne ? Le grenier de l'année.
Reason number 5, why I'm late. I ran into Dee while heading out. I met Dee for the very first time yesterday and have already bumped into him twice today, purely by chance. This time it was very frontal. Couldn't avoid him, couldn't escape the interaction. He's the first good-looking Hungarian guy I've met this month so far. He's so hot, and he's both a musician and a dancer. Wow! We exchanged a few words. I asked him to walk me to the bus stop so I wouldn't be late. These words were too many words, and as we stood there talking, the bus drove by. We ended up waiting several long minutes, filling the time with awkward, flirty small talk. Update 1 month later. Dee is actually flirting with whole Budapest. He stared so intensely at the orange Lea was eating that she got wet and got her first Hungarian crush, like me. Update 2 months later. We ate Ukrainian borscht together that Dera made after we went mushroom picking in the forest. She had a Tinder date with him. Worst date ever. He had really strange opinions about Ukraine and women and genderqueer people. Also, he ghosted her. He wrote me a year ago. I ghosted him since then.
Sun stood at the edge of the valley. Deep in the mountains, where the peaks towered silently around them. It was one of those summer days when everything seemed to have fallen into a deep sleep. The air was still, the forest quiet, not even a leaf rustled. The silence pressed in, thick and unsettling, creeping into Son's skin. As if it had stolen her voice, leaving her to follow a script, unable to make any real choices. Others were there too, but they were distant, almost dreamlike, as if their presence belonged to another time, another life. They reached the lake, wide and still. The blue of the sky above was almost painful to look at. But there was something wrong. Son squinted. There was no sun. The sky was bright, clearly midday, but the sun was nowhere to be found, as if it had chosen to hide from this place. The absence lingered in her mind, unsettling. But before she could dwell on it, the others rushed into the water, and Son, too, found herself following. The water heat cool against her skin, and Son swam a little farther from the shore, far enough that she could no longer feel the ground beneath her feet. For a moment she felt the tension in her chest loosen, as though she could finally relax. Lake's surface shimmered, undisturbed. But then, a deep, ancient roar echoed across the valley, shaking the earth. It sounded like the mountains themselves were groaning under some immense pressure. Everyone in the lake froze, turning their heads towards the source of the sound. The air felt thick with anticipation. Then it happened. A flood crashed down from the mountains, a violent surge of water, overwhelming and destructive, tearing through the valley. The water hit Son hard, dragging her under. She struggled, disoriented, until finally she managed to cling to the side of the mountain. Grabbing at the grass, bushes and rocks, anything that would keep her from being swept away. The flood was still rising, carrying her upward. Other people were climbing too. Some far ahead of the flood, racing toward the top. When Son reached the peak, she saw a metal door embedded in the rock. She pushed it open and stepped inside. The hall was vast, bathed in a golden light that felt soft, almost otherworldly. People walked around, chatting over coffee, working at computers. The room was lined with large windows on either side, revealing a perfect view of the mountains. It looked peaceful, almost idyllic. Outside, people stood on terraces, enjoying the warmth of the setting sun. Son found herself drawn toward the warm, sunlit space, as if she could sit down and dry off, leaving the flood behind. But something felt wrong. A shiver ran down the spine. Son turned, sensing eyes on her. At the far end of the hall, she noticed what looked like an aquarium. It took her a moment to realize that it wasn't an aquarium. The water behind the glass was from the flood she had just escaped. The other side of the mountain was submerged, and people, animals, were struggling against the water, trying to reach the surface, their faces twisted with fear and desperation. At first, the people in the hall noticed the flood. Some pressed their hands against the glass, their faces filled with concern. Over time, fewer people looked. They had grown used to it, accepting the flood as something distant. Son wandered through the hall. She was caught between the flood and the hall, belonging to neither. Son's heart raced as she ran down a set of stairs, discovering more halls, each lined with windows overlooking the flood. The next thing she knew, Son was back on the mountain's peak. The flood had slowed, but it was still rising, creeping ever closer. Below, people floated by on trees, debris, and makeshift rafts. They stared blankly into the distance. Son felt a growing frustration, a weight pressing on her chest. She wanted to call out to them, to do something, but the words wouldn't come. She didn't belong anywhere anymore. Not here. Not there. They were still living it.
would ever meet. Now home will be the death of me. Now Johnny will say to his cap'n one day, why? Before I'd be governed by an old steam drill, I'd die with my hammer in my hand. I'd die with my hammer in my hand. Now John Inman swung his hammer around of his head. He brought that hammer down on the ground. Man, Chattanooga, 300 miles away, heard an awful rumbling sound. He heard an awful rumbling sound. Now John Henry had a pretty little gal. Her name was Polly Ann. When John Henry was sick and laying on his bed, why, Polly drove steel like a man. Miss Polly drove steel like a man. When John Henry died, there wasn't no box big enough to hold his bones. So they buried him in a boxcar deep in the ground. And they let two mountains be his gravestones. Oh, they let two mountains be his gravestones.
Many, many thanks to first to Lumpen Station team, Andrea, Mathilde and Letizia for inviting me. Many thanks to Cécile, Alona, Theo, Jaco and Julie for participating to this event. It was Mix Salada by Claire Megumi.